Bonjour, c'est Robin de 12 FPS. Au cours de cet épisode, vous allez sûrement remarquer des petites coupes étranges, un montage un peu étrange et des réponses un peu étranges. C'est normal, on a dû faire face à des petits problèmes techniques pour le début de cette nouvelle saison. Cela ne devrait plus se reproduire à l'avenir. Des bisous et bonne écoute.
Robin, tu tombes bien, viens voir. J'ai enfin trouvé la solution à l'énigme du studio Disney France.
Ah putain, non, pas encore. Non, c'est bon, je veux même pas savoir.
Mais si, écoute-moi.
Il est fermé le studio là, ton puzzle là, ça n'a aucun sens et ça ne prouve rien. Tout est tombé à l'eau il y a des années, ok?
Mais si, regarde. Si on se réfère à cette ancienne feuille d'exposition de 1834, qu'on inverse l'ordre des mots, sauf les plans à faire, et qu'on multiplie par un tiers, qu'on le trempe dans de l'encre de sèche, qu'on le sèche ensuite à la chaleur d'un barbecue, qu'on enlève certaines consonnes de l'alphabet sumérien, parce que très franchement, il on obtient A-W-N-E-C-Y, ce qui nous fait Annecy.
Wow.
Ce qui veut dire quoi? Que ce que nous cherchons est sous le lac. Et regarde ces dessins. Ils sont la clé de voûte, la clé dans laquelle je te chante cette douce mélodie, l'emplacement exact des vestiges du studio, j'en suis persuadé.
Ok. Et on y trouverait quoi?
Je sais pas moi, des dessins originaux, des secrets, de l'animation centenaire, peut-être des techniques oubliées même, qui sait? La légende raconte qu'il travaillait sur le 13e principe de l'animation, un truc révolutionnaire. Malheureusement, de simples humains tels que nous ne peuvent sûrement pas le maîtriser, mais hey, tu m'écoutes là?
Ouais, j'écoute, j'entends même. Dis-moi là, tous ces trucs là, ça doit avoir une grande valeur, non?
Oui, bah oui, une valeur artistique, culturelle, sentimentale, vraiment incommensurable, ça n'a pas de prix.
Bon, t'es comment en plongée?
Hein? Bah, je dispose de mon brevet de sauvetage.
Ok, tu vas passer du palier 1 à 4 très vite alors, parce qu'on va aller racler le fond du lac une bonne fois pour toutes.
De quoi?
Olivier?
Paris à la descente, commandant.
Vous êtes bien dans 12 FPS, et aujourd'hui, on vous parle d'Atlantide, l'Empire perdu.
Hé, hey, rapido!
Ouais, Resmo!
T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les races.
Madame Lourdes, je suis content. Elle est en grève.
Elle se casse, la potion! Ils mettent quoi dedans?
La rivière Kouakou.
Cargo, connais bien, hein? On y va tous les étés.
Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs, et bienvenue dans la saison 4. On peut s'applaudir s'il vous plaît. Grande saison qui s'annonce avec plein de films sélectionnés pour vous, plus que dans la saison 3 c'est promis, mais aussi d'autres contenus exclusifs et inédits dont on vous reparlera très bientôt. Pour entamer cette quatrième saison, donc, on vous parle d'Atlantide, l'Empire perdu. Un film d'animation 2D traditionnel sorti en 2001, produit par Walt Disney Pictures évidemment, et réalisé par Gary Trousdale et Kirk Wise, à qui on devait à la réalisation notamment La Belle et la Bête et Le Bossu de Notre-Dame. Au doublage en VF, nous avons Luc Hamet qui double Milo, Laura Blanc qui double Kida, Jean Reno qui double Vincenzo, Mousse Diouf qui double le docteur Amadou Gentil et Patrick Timsit qui double La Taupe. Et avec moi aujourd'hui pour parler du film, Robin.
Et l'eau, toujours là, toujours présent.
Toujours présent, pas le même endroit,
oui, on a upgrade pour la saison 4.
Professionnalisation du podcast, toujours sans argent, mais avec un studio. Et Olivier, qui est avec
salut.
Nous, ça va?
Ça va bien, ouais.
Parfait, et pour résumer le film, pour le premier film de la saison, évidemment. Robin.
Ah, moi, je pensais que ça allait être Olivier.
Non, parce que je te voyais me regarder en faisant ouais,
évidemment, je le sentais, du coup, bon. Non, je ne le sentais pas du tout, donc je ne suis pas du tout préparé. J'étais préparé pour le prochain film.
Non, ça sera moi.
Ah d'accord. Peut-être. Oui, mais du coup, tu sais quoi. Bref, alors, Atlantide, c'est un film qui raconte plein de choses. Donc, on suit Milo, qui est un polyglotte qui apprend les langues. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est le métier de linguiste, exactement. Et en fait, qui a trouvé une piste pour trouver l'accès à l'Atlantide. Et donc il démontre ses théories, personne ne le croit, jusqu'à ce qu'un vieux pote de son grand-père lui dise: moi je crois et j'ai de l'argent, tiens vas-y, et tiens un équipage, et tiens on solutionne beaucoup de choses très facilement en une scène,
et un sous-marin géant
sous-marin quand même grande classe. Et du coup ils partent à la découverte de l'Atlantide et ils le trouvent, Et il se passe plein de choses, il rencontre la princesse, mais en fait l'équipage il était plus méchant qu'il n'y paraissait. Oh là là, le cliffhanger.
Le
non pas du
spoil.
Tout. Ouais, on sait quoi. Mais voilà, du coup l'équipage est plus méchant que ce qui était prévu. Ils veulent évidemment récupérer les richesses et tout ce que les Atlantes ont réussi à accumuler au cours des années. Mais Milo dit non et il tape du pied et ça ne se passe pas. Et lui il reste dans le pays, il se tape la princesse et les autres ils repartent et fin de l'histoire. C'est un peu ça qui se passe.
Ils eurent beaucoup de petits poissons.
Et générique de fin avec une musique qui n'a pas
rien
rapport
à voir. Mais
avec
ça, t'as remarqué, tous les Disney depuis une certaine époque, c'est la même. Genre, les musiques sont incroyables, ils font des compositions originales, ils invitent des chanteurs, il y a des acteurs de Broadway qui chantent et tout, il y a des chorégraphies de ouf. Le générique de fin, c'est genre, c'est compilation 2000mp3.fr. Quoi. C'est de la merde. Enfin, bref.
Exactement.
Tout de suite, votre avis sur le film ?
Évidemment.
Je vais commencer par Olivier.
Ok, alors moi, c'était un des Disney que j'ai le plus vu quand j'étais petit, je pense, que j'adore depuis très longtemps. Et ça fait longtemps que je n'avais pas revu. Et là, en le revoyant, il y a toujours plein de trucs que j'aime beaucoup, mais la vache, la vitesse à laquelle il passe, ça s'arrête jamais, en fait. 200 à l'heure. Et ouais, après, on reparlera du reste, mais ouais,
bah,
c'est à peu près
là, je peux donner la réponse, chaud. C'est qu'à la base, les deux premiers actes, quand il est dans l'école et quand il découvre l'histoire des Atlantes, ça devait durer 120 minutes. Et en fait, il y avait encore tout un troisième acte bien plus long. En fait, à la base, le film devait faire deux heures quelque chose. Et ils ont tout mis en 94 minutes, du coup.
Mais voilà. C'est même au-delà de ça, il y a plein de passages où ils balancent des petites phrases pour l'humour comme ça, mais qui n'ont rien à voir. Tu fais, mais il n'y a pas besoin de ça, en fait.
Ouais.
Et du coup, ça accélère le rythme pour rien.
Ouais, clairement.
Donc, ouais.
Robin, qu'est-ce que tu pensais de ce film ?
Eh bien, moi, j'ai pensé que c'est la première fois que je le voyais. Ouh là là, oui, lapidez-moi de toutes les choses que vous voulez, exactement.
T'es où en 2001,
ouais,
putain ?
Je sais pas, franchement. Non, j'ai des vagues souvenirs d'avoir vu des trucs en VHS à l'époque, mais vraiment, je me souvenais pas de l'histoire. Je voyais les persos, j'avais vu des posters, mais voilà. Et donc, je l'ai découvert. Donc, le bon truc, c'est que je ne peux pas faire jouer la carte nostalgie. Et je l'ai regardé objectivement. Et objectivement, c'était sympa, mais c'est pas du tout pour les enfants.
Ah non,
c'est clair. Et en fait, je comprends qu'il a complètement floppé parce que le public, c'est pas les enfants.
Déjà, ouais, pas de chansons.
Pas de chansons.
Et le nombre de morts dans ce film.
Ouais, mais ouais. C'est ça, mais les persos en plus qu'on suit, c'est des méchants. Ils sont pas vraiment. Ils ont pas le bon fond, ils sont là pour la thune. Ils clopent, ils boivent.
Ouais.
Il y a plein de choses comme ça.
Il y a des blagues de cul.
Il y a des blagues de cul.
Bah, la vieille qui te le dit tout le temps, on va tous crever.
Ouais, tiens, donc tu te dis, je comprends que ça n'avait pas marché parce que c'est pas. Mais en fait, c'est un peu dans la même veine parce que juste avant, il y avait eu le bossu de Notre-Dame. Alors, celui-là, il s'était aussi foiré un peu parce que.
Ouais, mais ils avaient mis les chansons.
Mais
après,
ça a un peu
c'est du Victor Hugo, c'est compliqué.
Clairement. Mais celui-là, en tout cas, je comprends qu'il n'ait pas fonctionné. Mais maintenant, en tant qu'adulte, je l'ai apprécié. Et en même temps, non, parce qu'il y a plein de problèmes qu'on en discutera juste après. Des gros trucs qui m'ont vraiment énervé. Mais je n'ai pas passé un mauvais moment.
Je l'ai revu un peu d'un œil, parce qu'il était très frais pour moi. Mais en fait, même en le revoyant à 3 semaines d'écart, ça passe très bien. Oui, le côté nostalgie joue beaucoup. Mais je trouve qu'en fait, en le comparant avec et La Belle et la Bête et Le Bossu de Notre-Dame, tu sens que les réals, ils ont petit à petit gagner la confiance du studio, ils ont pu aller vers ce qu'ils voulaient faire.
Ouais.
Il y a une vraie identité dans ce film, il y a une vraie patte. Olivier nous en reparlera, notamment des chara-design que je trouve super. Alors là où je trouve ça dommage, c'est que je trouve que les chara-design des persos secondaires sont plus réussis que les persos principaux. Je pense à Helga, je pense à Rourke, je pense à Whitmore, même le roi de l'Atlantide.
Ouais.
Mais même leurs personnages, t'as envie d'en savoir plus et ils sont juste écrasés par Milo et Milo, on s'en tape quoi.
Milo, ouais.
C'est le... tu dis que c'est des personnages secondaires, mais vu qu'ils sont au centre de l'intrigue, ça reste des personnages principaux.
C'est des mais c'est les antagonistes quoi, je veux dire.
Oui, bien sûr, mais ils font partie de l'équipe principale.
C'est ça. Milo, c'est un peu, tu sais, comment t'appellerais ça, le nerd, le geek, sympa.
L'anime de Milo est vraiment cool.
Ouais.
Il fait un peu ingénu.
Oui, c'est ça. Mais il y a des trucs après, en tant que pur avis d'animateur, il y a des choses où des fois ça glisse de ouf.
Ouais,
y a
des animations très rapides.
On peut en parler rapidement. C'est un film qui avait un budget de environ 100
millions
d'euros.
Hein,
c'est
quand même
beaucoup.
Ouais, ouais.
Pour l'époque, il y a eu pas mal de recherches, comme tu disais, beaucoup de réécriture.
Beaucoup de 3D aussi.
Ce qui est cool, par contre, c'est qu'ils ont gardé les équipes qu'ils avaient sur le Bossu de Notre-Dame. Ils ont gardé quasiment tous les mêmes artistes. Ça, c'est assez chouette. Et donc, ça, c'est la volonté des réalisateurs qui voulaient faire ça. Mais après, non, le film est cool. C'est les montagnes russes, le film. On en reparlera après. Parce que
c'est le bordel.
Ouais. C'est un peu le bordel. Par contre, c'est vraiment un super film d'aventure. En tout cas, les deux premiers actes, la première partie, la fin, c'est plus action. Et moi, j'ai eu un peu plus de mal en le revoyant là.
Oui.
Mais
c'est toujours un peu ça, les, ouais,
mais
les...
Mais ça reste non, super
voyant,
cool.
Moi, ça m'a fait penser à quand Sacha nous faisait faire du Lovecraft en jeu de rôle.
Ouais.
C'est, ça ce serait le truc parfait.
Voilà. Et il y a le côté aussi.
C'est bien, tout le monde a cette référence, c'est incroyable.
Oui, moi, j'aime les chansons dans les
le
Disney.
Lovecraft, quoi.
J'aime les chansons dans les Disney, et là, il n'y en a pas, et bah, les musiques sont ouf. Les musiques sont incroyables, oui. Les compositions sont super bonnes, ça match parfaitement, ça sait se mettre en valeur et s'écraser quand il faut, c'est vraiment superbe. Donc, ouais, vraiment un bon film, un plaisir de le revoir, mais bon, voilà, c'est pas parfait. C'est juste que oui, il y a ce côté nostalgie et puis il y a ce côté, c'est un Disney. Si ça avait pas été un Disney, on l'aurait jugé différemment. Alors que là, tu vois, c'est fait partie de la machine Disney, mais complètement à part. Donc, je pense qu'il y a ça,
c'est
ça
donc
joue aussi.
Le point que je vais faire après, est-ce que si ça avait pas été un Disney, on aurait plus aimé le film? Il y a plein de questions à se poser
là-dessus.
Teasing
de la suite de l'épisode. Eh bien, écoute, on va pouvoir avancer. Le coup de génie.
C'est brillant, brillant, brillant. Des génies à l'état
pur. Hey, c'est moi qui commence. Alors, moi, mon coup de génie, c'est l'attaque du Léviathan. Donc, on en a parlé, Romain en a parlé dans le résumé. Milo, qui est ton cartographe linguiste raté du musée, arrive à se faire financer par un... petite pirouette scénaristique, une expédition pour aller vers l'Atlantide, parce que en fait, son grand-père était pote avec ce gars qui est maintenant est ultra riche. Tout ça se passe en 1914, donc pour vous situer aussi, si vous ne l'avez pas vu, les décors, les machins et tout. Donc il y a ce côté aussi, waouh, c'est fou la technologie, machin, mais tu as ce côté un peu, presque un peu steampunk en fait.
Ah, complètement.
Et ouais, mais tu as vraiment un truc avec. Parce que leur sous-marin a l'air un peu articulé, mais après, du coup, ils vont dans l'eau et là, tout est beau. Ils ont, c'est pour ça que je dis que c'est les montagnes russes le film. Au début, tu as vraiment la descente, après, ça remonte en mode, ah, le journal du berger, j'ai trouvé là, une expédition, on va la monter. Et après, ah, non, en fait, j'ai pas de financement. Ah, mais il y a un gars qui est super riche. Ah, mais finalement... Et là, donc la deuxième... Enfin, une des mille descentes de ce film, c'est qu'ils plongent et, en fait, ils entendent un truc dans l'hydrophone du sous-marin. Et pendant ce temps, ils sont en train de dire « Ah, il paraît qu'il y avait un énorme Léviathan, une créature de légende, mais c'est sans doute des raconteurs pour faire peur aux marins. » Et là, ils font « Tiens, c'est bizarre, il y a quand même pas mal d'épaves de bateaux de toutes les époques. Et donc, évidemment, là, on voit... C'est ça qui est cool, c'est qu'on voit le Léviathan et nous, ça m'a fait penser à la menace fantôme.
Question ah oui, exactement,
de référence,
vous voyez, exactement.
Quand ils traversent la planète avec l'eau là,
oui,
et qu'ils sont poursuivis par des poissons de plus en plus gros,
ouais.
Ça me fait beaucoup penser à ça. Et d'ailleurs, le film sorti la même année,
ouais.
C'est drôle.
Moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils ont mis la vieille à l'hydrophone.
Oui,
c'est-à-dire
oui,
c'est censé être, non, mais censé être elle qui entend le moins bien,
ouais,
normalement,
ouais.
Avec l'âge.
Mais non, parce que
c'est
pas son temps au téléphone
ouais,
avec Margie. Bref, et du coup, ils sont attaqués par cette espèce de créature des abysses. Et du coup, il y a toute une séquence d'action avec la musique qui est super cool. Ils évacuent le sous-marin. Il y a un côté Titanic aussi, un peu. Ça se finit. Donc, tout ce que j'ai trouvé très cool, en fait, c'est qu'ils arrivent, ils sont un peu les rois du pétrole. Et en fait, il y a déjà l'Atlantide qui leur met une première claque dans la gueule en mode bah non. Parce qu'à la fin, ils sont genre. Peut-être 50, il en reste, là.
Ouais, et ils étaient 200, ils disent.
Ils étaient 200.
Ouais, ouais. Ça aussi, excuse-moi, il y a un génocide.
Ouais.
Et les gars, ils arrivent et personne n'en parle.
Ouais, mais bon,
ils font des petites funérailles sur le lac.
C'est comme dans, pareil, je sais pas, dans Mulan, il n'y a pas la même idée où il y a plein de soldats qui meurent et tu fais, bon, bah les couilles, c'est...
Mais là, t'as quand même
c'est
des passages où tu vois les personnages, tu vois les petits sous-marins qui explosent, t'as des gens qui sont coupés par l'eau qui...
Oui, alors ça, c'est affreux, il y a des gens qui... Tu vois, il y a un plan vraiment où il y a Audrey, la mécano du sous-marin, qui fait sortir les gens des cales, et tu sais, la porte est en train de se refermer. Tu dis, bon, bah c'est bon, c'est Disney, ils vont tous ressortir. Non, il y en a un qui reste. Tu fais, bah il est mort,
oui,
noyé,
oui.
C'est affreux. Tu vois,
bah, c'est comme dans le Titanic, quoi.
Ouais, c'est ça, mais il y a que des trucs comme ça, donc d'où le côté Titanic. Et puis après, moi, ce que j'aime beaucoup, après toutes ces. Parce que c'est. Paradoxalement, c'est une grande scène d'action, il y a assez peu de plans larges. C'est vraiment beaucoup de plans sur les réactions des personnages. C'est ça que j'ai trouvé cool, la façon dont c'est géré. On voit un peu le Léviathan au début, mais on voit surtout l'attaque. Je pense qu'il y a aussi une histoire d'économie de
dessin. Quand il passe à travers
les
restes du sous-marin qui vient d'exploser. Mais
c'est
tellement
ça.
Beau ce plan.
C'est super cool. Donc il y a ce plan-là. Et après, il y a le plan où on les voit tous. Et il leur reste leur tout petit contingent là, dans la grotte. Et à ce côté, 20 milieux sous les mers, tous les films catastrophes auxquels vous pensez, l'aventure du Poséidon, bref. Et du coup, ouais, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et puis, moi, je me rappelle quand j'étais gamin, c'était un de mes trucs préférés, le Léviathan. J'étais là, waouh, c'est trop cool. Tu sais, c'est des gros monstres comme ça. En plus, il est un peu mécanique. Donc, tu sais pas trop s'il est vivant, pas vivant. Donc, il y a tout ce délire après avec le cristal des Atlantes et tout. Donc, voilà. Vraiment une excellente scène.
C'est parti.
Baleine ou pas baleine, en tout cas, c'est fini.
Pilote, virez de bord. Resserrez le périmètre de recherche et récupérez. Sortir les marmites et préparer les rince doigts. Nous aurons du homard au menu ce soir.
Disposez les torpilles, tous les nautilus, barrez à sortir.
Ouais, il y en a partout. Mais c'est vraiment cool. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Dégueulasse. Olivier, tiens. Le coup de génie, pardon.
Passage où il se pose pour camper et ça se pose un peu plus pour discuter. Et il y a les personnages qui racontent un peu leur backstory. Et donc moi, c'est le passage avec Enzo parce que ce perso m'a toujours fait bien marrer et j'ai toujours adoré le doublage de Jean Reno. Même Jean Reno, en général, quand j'étais gosse, j'aimais beaucoup en tant qu'acteur.
On voyait beaucoup, hein.
Ouais.
Maintenant, on voit plus.
Maintenant, plus trop, ouais. Mais du coup, j'ai trouvé ce personnage qui marchait super bien. Et puis là, en le revoyant en plus, c'est vraiment un passage où, du coup, ça respire un peu, comparé justement au débit non-stop du film.
Ouais, c'est vrai.
Du coup, ouais, c'est ça. Et puis, ouais, ça me fait marrer.
Ouais, mais c'est cool parce que ces moments de respiration, c'est des trucs que t'as pas. Dans un Disney classique, on va dire, ils auraient mis une chanson à ce moment-là.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, non, c'est ça.
Il y a la même chose un peu après, quand il se balade avec Kida et qu'il lui parle de la... Là, ils auraient foutu une chanson.
Oui, là, quand il grimpe.
Par exemple, ce qu'ils font dans... qui est un peu le même délire. Ils découvrent une nouvelle civilisation dans Eldorado. Et ben, ils foutent des chansons.
Mm-hmm. Ouais.
Alors que là, ils parlent et tout. Et y a... bon, on en reparlera sur ton extrait, mais il y a un truc qui m'a scandalisé, par exemple.
Bon, puisque vous insistez... Moi, ce qui m'éclate, c'est ce qui fait boum.
Allez, Enzo, raconte-lui ton histoire.
Ma famille, elle avait une boutique de fleurs. Orchidée royale des tropiques. Magnolia, rose anglaise Watson. Un jour, je compose des corsages, des petits bouquets. 3 douzaines. Pour, vous savez, le bal des débutantes. Que les filles, là, le portent au poignet. Et toutes les 5 minutes, je veux ci, je veux ça. Non, ça va pas avec ma robe. Le cauchemar. Enfin, bref. Un jour, chez le traiteur chinois, à côté, il y a eu, je ne sais pas, une fuite de gaz. Boum! Plus de traiteur chinois. J'ai décollé et je suis passé à travers la fenêtre. Pour moi, c'était un signe de la providence. Et oui, j'ai trouvé ma voix dans ce boum.
Donc sa voix, c'est de faire péter des trucs.
Oui.
Voilà. Incroyable.
Ah, mais tout le long du film.
Toutes les blagues avec la dynamite. Ouais,
moi, je pense... Ça m'a pris quoi? 10 secondes.
10 secondes.
On a tout pété.
Avec la dynamite là, qu'il éteint, je vais éteindre ça.
Ça a l'air... Tellement iconique.
Ils ont construit ce punk, quoi. 4 Essenza, moi je vais le faire péter en 10 secondes. Mais en fait, il faudrait prendre cet extrait audio et le mettre sur Porco Rosso.
Ouais,
pour
grave.
Un passage.
C'est ça.
Tu sais,
c'est
où tout, ça serait incroyable de voir le décalage.
Tu vois, là, il force un accent. Il a un accent italien.
Corse.
Ouais,
italien,
corse.
Un truc aussi que j'oubliais, c'est à ce passage-là, c'est avant, ils sont tous super antipathiques avec Milo. Et à ce passage-là, ouais, il commence un peu à l'accepter, à sourire.
Ah oui, c'est qu'il est vraiment.
Sauf que ça va pas durer, ouais, parce que c'est les montagnes russes, le film.
C'est ça, mais c'est quand même un truc qui aide à accepter le fait que au final, ils reviennent.
Ils
un peu
sont
son
sympas.
Côté.
Ouais. Oui, bien sûr. Non, après, la construction des personnages et tout est vraiment cool, tu vois. Et le film en soi, c'est pas mal écrit du tout. C'est juste qu'il y a beaucoup de.
Ouais, non, bien sûr.
De
bah,
ça.
Il va de son.
Et c'est juste qu'à la fin, c'était fatigué, quoi. Donc, mais après, il est pas si long, là.
Non, bah, non, il est très rapide.
Fait
rapide.
Moins de 90 minutes.
96 minutes.
96 minutes.
Mais okay. dans le style, il y a Hercule aussi, si vous vous rappelez, il passe, mais à une vitesse incroyable.
Ah bah tu oui, vois, mais... j'ai mon... Ouais, mais dans
mais
Hercule...
là, il y a une chanson de zéro tout héros.
Ouais, parce
bah,
que ouais, dans Hercule, les chansons sont incroyables, du coup. J'ai rien à dire.
Mais c'est vraiment deux films à chaque fois que j'ai l'air, je me dis, putain, mais il passe
trop. Il y a encore Patrick
Timsit. Ouais.
Bah alors, par exemple, est-ce qu'on peut le comparer avec La Planète au Trésor et dire, dans La Planète au Trésor, moi j'ai pas un souvenir, tu veux en parler plus tard? La
Planète au Trésor? Ouais. Je t'ai pas vu.
Ah, tu l'as pas vu?
En fait, moi j'ai loupé, je pense, toute cette dernière phase
coma,
de
donc.
Disney.
C'est ça, t'étais
non,
dans le coma
en fait,
dans,
je crois que j'ai,
de 2001 à 2006, t'étais dans le coma.
À partir de 2000, j'ai découvert Pixar. C'était bye bye les Disney en 2D, c'était
ah,
tout.
Ils ont pas fait tant de trucs que ça, Pixar. Donc tu pouvais regarder les deux.
Il y avait Monstres et compagnie, je suis désolé.
Oui, bah ça fait un film. Tu l'as regardé en boucle pendant 5 ans.
C'était possible là.
Oui, cela dit, c'est possible. Non, mais oui, bah, par exemple, La Planète au Trésor, dans mon souvenir, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, mais il y a vachement plus, justement, des moments de pause.
Ouais,
comme là, il y en a un.
C'est vrai que
mais ça
ne
dure pas longtemps. Hein.
Je ne l'ai pas énormément vu, La Planète au Trésor, mais je n'ai pas autant de souvenirs qui soient si rapides.
En fait. Ouais, non, non. Et puis même, le début est plus posé. Et pour moi, La Planète au Trésor, je vais le dire maintenant, voilà, est mieux que l'Atlantide.
Oh, voilà. Bon,
les mots sont dits. Insultez-moi en commentaire.
Oui, je t'insulte en live.
Moi-même, je vais prendre le compte
moi,
de FPS et je vais
j'ai
t'insulter.
J'ai un meilleur souvenir de La Planète au Trésor que d'Atlantide, alors que La Planète au Trésor, je l'ai vu genre 2 fois, max.
Le coup de génie. Pour moi, il y a eu 2 choses, et j'ai dû faire un choix, sinon j'aurais mis 2 coups de génie. Il y en a un que j'ai pas mis, du coup. qui était le moment où il rentre chez lui après s'être fait marcher dessus par le gars du musée.
Elga.
Et voilà. Miaou. Et en fait, il y a Elga et oh, je suis tombé en amour de ce personnage. Il est incroyable.
Ouais, ouais,
mais
bah,
tous
bah,
les personnages féminins du film sont incroyables.
Incroyable. Il y a Lara Croft aussi dans le style.
Ouais, ouais, mais
y a,
moi, bah, j'ai même eu des, vibes de la meuf dans Eldorado.
Oui, oui,
mais ça
Shell,
plus aussi pour Kida, mais
oui,
pour Kida aussi.
Pour Kida, ouais.
Mais du coup, donc en fait, t'as tout un truc où en fait, c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas pour les enfants. Il arrive, t'as le tonnerre, la mise en scène avec les éclairs et tout ça, puis d'un coup, ça coupe. Et je trouve que c'est vraiment une mise en scène de film un peu obscur.
Bah,
avec
gros
des,
moment,
des,
ouais, Sin City, Chinatown et tout. Ouais, ouais,
et en fait, j'ai fait ah ouais, mais c'est vraiment un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir en animation, la transition avec le tonnerre et tout ça. Et puis après, bon, je vous parle de ce coup de génie alors que je sais pas du tout, c'est pas ce qu'on va écouter, mais et en fait après, on arrive dans le château et les décors sont incroyables. Dans
j'ai
la maison, oh là 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 là, comment
avec
c'est beau la maison, ouais, les cool. décors et
quand
tout.
Quand il fait son yoga, ouais. À mourir de rire.
Voilà. Et du coup, le coup de génie dans ce podcast, c'est aussi des fois des choses qu'on n'aime pas du tout. Ah. Et du coup, là, le coup de génie, c'est d'avoir vraiment trouvé une solution de merde à laquelle j'ai pas du tout adhéré, qui est salut, ça fait 9000 ans, on sait plus comment écrire.
Ouais, on sait plus lire, on sait plus écrire.
Je ne crois pas, je n'achète pas ce que
alors,
tu viens de me dire.
Moi, vas-y, je te laisse finir.
Parce que, ok, je veux bien, 9000 ans, c'est long, tu peux oublier des choses. Tout à fait. Mais on a vu au début du film que quand les Atlantes se font exploser, il part avec le grand-père. Le grand-père, il savait bien lire, il aurait pu transmettre le savoir. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui... Et juste l'explication, c'est « Oh non, on a oublié. Bon !» Et donc, ça amène en fait après tout un truc où ça m'a énervé. Encore une fois, c'est le blanc américain qui vient expliquer à une civilisation comment utiliser leur truc. Et je fais
voilà.
Vraiment, c'est chiant,
donc,
putain, les gars.
C'est un peu ce côté White Savior, le film. Mais pour le côté d'oublier de comment écrire, ça marche pas dans le cadre du film parce que c'est la même génération
c'est ça,
qu'avant.
Le problème, ouais.
C'est, ils ont tous 8
millions. Oui.
Du coup, il n'y a pas de raison qu'ils aient oublié. Mais le fond de la pensée n'est pas con parce que c'est un truc qui existe dans le vrai monde avec des générations notamment...
Comment ça, le vrai monde d'Atlantide, ça existe, ok. On part en excursion ce soir.
D'accord. Alors, on va te faire relire plus
avec fond. Avec, par exemple, l'immigration, c'est un truc qui se voit beaucoup au Canada, par exemple, de l'immigration qui vient soit de Chine ou Hong Kong, les gens ou même d'Amérique du Sud ou Amérique centrale, qui savent par exemple parler espagnol, ou parler chinois, ou parler cantonais, mais qui ne savent pas l'écrire. Parce qu'en fait, c'est de la transmission orale.
Oui, d'accord, mais...
Ça marche aussi avec l'arabe. Les gens qui parlent arabe, mais qui ne savent pas l'écrire.
Je comprends le point de vue, mais là, en l'état, et c'est sûrement à cause des trous scénaristiques et tout le bordel qu'il y a eu,
voilà.
Ça ne fonctionne pas, et du coup, ça m'a énervé. Et en plus, après, on arrive à l'exemple où, juste après ça, il lui explique comment utiliser un véhicule. Et il lui fait, ok, est-ce que t'as mis la clé dans le moteur? Oui, est-ce que t'as mis le contact? D'accord. Est-ce que t'as mis ta main sur le truc? Ah, non. Et j'ai fait, franchement, en 9000 ans, t'as pas essayé toutes les combinaisons possibles.
Ouais, voilà, c'est
puis surtout
ça.
Aussi, si elle a déjà essayé certains trucs, ça veut dire qu'elle a déjà à peu près déchiffré ce qu'il y a.
Ben
enfin,
oui,
oui c'est
genre,
ça.
Bon, voilà, donc c'est vraiment
oui,
ça qui m'a énervé.
Moi, il y en a une qui m'a énervé de ouf, tu sais, ils sont en train de monter et lui dit, ah, on s'est pas présenté en fait, moi c'est Milo et tout. Et elle lui dit son nom, elle lui dit, c'est Kida Tekash, un truc comme ça.
Ouais.
Et il fait, de quoi j'arrive pas à prononcer, t'as pas un surnom? Je fais, fils de pute, t'es linguiste.
Oui.
S'il y en a un fils de pute dans toute l'expédition qui est censé bien prononcer son nom, qui en plus n'est pas très compliqué, c'est toi.
Oui.
Pourquoi c'est quand même plus facile Kida hein
et après quand ils arrivent au début dans les Atlantes, do you speak English? Après ils parlent italien, ils parlent français et après ils font oh il y a eu les Atlantes et après il y a la tour de Babel, donc d'un coup on nous balance une référence cato et tu fais
non c'est il dit c'est un peu comme la tour de Babel
ouais.
Moi j'ai bien aimé ce côté là genre la langue qui est la base
l'origine de toutes les langues
ouais
mais bon du coup
ça s'appelle une proto-langue d'ailleurs.
Oui, c'est ça.
Et le gars qui a, parce qu'ils ont vraiment inventé l'Atlante, c'est le gars qui a inventé le
Klingon.
Ça c'est fou hein. On va aller chercher.
Non mais je te dis le tout le bloc
de
ce qu'ils ont fait,
pré-prod est
de pré-prod, il est incroyable mais c'est dommage que ça devienne ça. Et voilà, du coup, c'est ça m'a un peu saoulé. Donc je voulais faire part de mon mécontentement.
Bon, question numéro 2. La légende dit que ton peuple possédait une forme d'énergie très puissante qui était capable
les signes tracés ici.
Oui, je suis linguiste et polyglotte, c'est mon métier. Bon, pour en revenir à ma question.
Les signes tracés ici, tu peux les lire.
Mais oui, je sais lire l'Atlante comme vous tous. Tu ne sais pas lire.
C'est pas lire.
C'est ça.
Personne
ne sait.
Nous avons perdu ce savoir depuis le temps du Mebelmok.
Ah, depuis le déluge.
Montre-moi.
Je vais essayer. Lewek temshi bonpuk bentem digen.
Suivez les trois passages de lieu encore et vous trouverez le cinquième symbole.
Oui, c'est ça. Ça allait mon accent?
Un peu rustre, provincial. Et tu parles un peu du dé.
Oui, c'est la cloison nasale.
Allez, viens. Je vais te montrer quelque chose.
On dirait une sorte de véhicule.
Oui, ça fait des siècles que j'essaye de le faire marcher, j'appuie partout, mais peut-être
pas de panique.
Que...
Voyons ça de plus près. Alors, mettez le cristal dans la fente.
Oui, j'ai essayé ça.
Ensuite, posez votre main sur le tableau de bord.
Oui.
Tu as fait pivoter le cristal un quart de tour vers la gauche.
Oui, oui.
Tout en gardant la main posée sur le tableau de bord.
Oui. Non.
Eh oui, c'était pourtant pas compliqué, il suffisait de lire le mode d'emploi, mais comme toi tu sais pas lire. Oh, parce qu'il compte, c'est d'avoir
il
essayé.
Est infernal.
Putain, tu la es vache. Condescendant, ferme ta grande okay, gueule alors, de tes okay. morts.
C'est vrai qu'il y a des dialogues
la,
quand même.
La vécue, la version québécoise est moins condescendante que ça. Là, le ton, quand il lui dit ouais, enfin tu sais pas lire et tout. Ah, oui. C'est chaud.
Ah, mais tu n'es qu'une femme, tu ne sais pas lire, mais il n'y a pas de problème. Chaud, ferme ta race.
C'est pas lire, c'est pas démarrer la voiture. C'est
tu sais
ça.
Pas démarrer la voiture et tu sais pas lire. Tu sais faire à manger? Oh,
ouais,
wow.
Ouais, tu sais pas lire. Franchement.
Putain, quoi.
L'enfer, quoi. Non, après, tout le côté, leur échange et tout, et le côté un peu chemistry entre les deux, là, ça marche pas mal, je trouve. Oui. Encore une fois,
c'est
très ça va
parce qu'il est
super vite.
De se rendre plus intéressant comme s'il était méga intéressant et tout. Et
oui, il essaye de se faire plus beau gosse.
À travers,
ouais, c'est ça. Alors qu'en plus, il a pas besoin parce que le gars a un métier de ouf, c'est trop intéressant, mais il essaye toujours d'en rajouter. Comme quand il répare la chaudière de la foreuse.
Dans les posies, ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, après, voilà, son anime est pour ce propos-là est vachement bien foutu, faut le dire. Ouais.
Encore un petit planté récolté parce qu'il répare la chaudière dans le musée et il répare le moteur exactement de la même manière. Voilà. On est parti pour la potion magique.
Yeah. On est parti.
Alors, gros Nébulix, c'est quoi que tu nous prépares là, copain?
Moi, je vais vous poser la question à des 5000 dollars qui a déjà été posée, qui est, est-ce que vous pensez que si l'Atlantide n'avait pas été un film Disney, dirigé pour le public Disney, ça aurait marché? Je ne veux pas vous demander de réponse tout de suite, je vais d'abord exposer quelque chose. Donc, comme on l'a dit, en fait, pour moi, c'est ça. C'était vraiment, il y avait une recette incroyable. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les films et tous les personnages sont à l'opposé de ce qu'on produisait Disney à l'époque. Et ils sont tous particuliers, ils fument, ils boivent. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que les femmes dans le film, elles sont incroyables. Déjà, on a tous les gabarits, tous les âges, et elles sont ultra développées. Et ce n'est pas des personnages fonction. Elles ont été traitées directement comme des personnages. Sauf que, et ça, ça m'a saoulé de ouf, la princesse, déjà on la voit au bout de la 40e minute, et 45 minutes, elle devient un bijou. Et on lui dit, maintenant t'es jolie, tu te mets dans le caisson, et tu fais rien. Et j'ai fait, mais niquez-vous, vous aviez un personnage incroyable, c'était trop bien, et vous en faites, vraiment, vous le rendez un personnage fonction, quoi.
Ouais,
ça m'a trop
sauver.
Énervé.
Alors,
et qu'il faut sauver,
ouais,
putain.
À la base, ça devait être une trilogie.
Oui.
Ah bon?
De long métrage, ouais. Et okay. Donc, Kida avait un rôle... beaucoup plus prépondérant dans les deux suites. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est comme le film a tanké, les suites ont été condensées en une série.
C'est ça.
Qui existe, hein, qui s'appelle Les Aventures de l'Atlantide, un truc
oui,
comme
il
ça.
Il y a Milo's Return aussi, mais apparemment, c'est vraiment pas ouf.
Non, pas ouf.
Sweet.
Déjà, la série est pas ouf.
Je l'ai voilà. pas vu.
J'ai vu quelques épisodes. C'est...
Ça fait une petite série d'aventure, j'imagine.
Ouais, en fait, ça perd un peu de son âme et c'est un peu condescendant. Et c'est... Ouais, voilà. Et
putain, mais ouais.
J'imagine qu'il y a des fans quelque part dans le monde, mais franchement. En fait, tu vas mater Avatar, ça, c'est mieux, quoi.
Mais c'est ça, où tu vas mater, je sais pas, le dernier samouraï.
Ouais,
ou,
voilà.
Le truc où tu sais, où c'est un blanc qui veut encore aider une civilisation. Mais je suis juste en mode, je peux pas m'empêcher de me poser. J'ai fini le film et j'ai fait ce film, s'il avait pas été estampillé Disney et qu'il targetait pas des enfants, je pense qu'il aurait cartonné. Je sais
mais
même pas, je pense en live action, il aurait été trop bien aussi.
Ça aurait...
T'as
alors
des
déjà,
doutes là-dessus ?
Déjà, ouais. Il faut remettre dans le contexte. On est en 2001, qu'est-ce qu'il y a comme autre gros studio de 2D ? Il y a DreamWorks qui viennent de sortir Le Prince d'Égypte en 2001.
Ouais.
Enfin, ils ont sorti Shrek, ils ont sorti Le Prince d'Égypte un an avant. Prince d'Égypte qui a coûté de mémoire à peu près le même budget et qui a failli ruiner DreamWorks.
Oui.
S'il n'y avait pas eu Shrek qui avait marché derrière, c'était fini. Donc on est déjà sur une époque en fait, où les films en... l'anime traditionnel, ça commence à saouler le public.
C'est pour ça aussi qu'il a encore moins bien marché.
Oui.
Au-delà du
voilà.
fait que ce soit un ovni, les gens, ils étaient plus intéressés par des...
Ouais, ils voulaient voir de la
3D. Faut qu'on remette dans le contexte. Il y avait Shrek, comme tu disais, il y a eu Monstres et Compagnie, je crois, un an plus tard.
Ouais.
Juste avant, il y avait eu Toy Story. Donc, il faut remettre ça dans son contexte de... On est dans un truc où les gens commencent à s'intéresser à d'autres trucs en termes d'animation. Il y a aussi beaucoup plus de films qui sortent avec des effets spéciaux.
Moi, ma question aussi, c'est par rapport à ta propre question, c'est si ça n'avait pas été un film Disney, est-ce que tu considères que ça aurait été un film indépendant ou un film, par exemple, de DreamWorks?
On peut se poser la question, oui. Qui aurait pu faire l'Atlantide si ça n'avait pas été Disney?
Moi, j'aurais bien vu Don Bluth.
Ouais, voilà. Okay. Mais par exemple, Don Bluth, en 2001, qu'est-ce qu'il faisait?
En 2001, Don Bluth, qu'est-ce qu'il faisait?
On est censé le savoir, hein, mais...
On est censé le savoir.
On n'est pas bon sur les dates.
Attends, sur là, sur j'ai 2002. 2000, ils ont sorti Toy Story 2. Il y avait Monstres et Compagnie en 2002.
Ouais.
2003, Le Monde de Nemo. Donc, c'est pour ça qu'en fait, moi, je pense que j'ai lâché l'Atlantide parce qu'à ce moment-là, Pixar, il commençait à cartonner de ouf.
Mais oui, Don Bluth aurait été incroyable. Mais est-ce que l'écriture n'avait pas. Moi, en fait, si ça n'avait pas été Disney, ça aurait été un film très différent.
Ça aurait été très différent dans le sens où je pense qu'ils auraient assumé un peu plus le côté mature. Il y aurait eu peut-être un peu plus de développement des personnages, moins de blagues.
Si ça avait été Don Bluth, il y aurait eu du sang.
Ouais,
déjà.
Bien.
Non, mais en fait, ça va parce que Don Bluth à cette époque, il faisait Titan AI, le truc horrible de science-fiction.
C'est lui qui a fait
ça. Voilà, ben ça, on en avait parlé. Ah, on peut le vétoiser, hein, celui-là, c'est
super. C'est clair.
Mais bref, ouais, je pense que ça serait passé un peu comme ça et ça aurait resté une sorte d'ovni d'animation 2D. Encore une fois, l'animation, on sait que c'est quand même pas mal vu pour un truc, un média d'enfant.
Moi, c'était aussi le problème à l'époque.
Je vais mettre un nom sur la table, Brad Bird.
Voilà. Ah, Brad Bird.
On sait qu'il a fait Iron Giant.
Oui, c'est vrai. Et puis après, il a fait les Incroyables. Mais
les Incroyables, mais ça reste dans la machine Disney, mais qu'il est revenu dans la machine Disney.
Pixar, c'était pas Disney à l'époque.
C'est vrai.
À cette époque-là, 2005. C'était 2005 qu'ils sont devenus chez Disney. Donc là, c'était pas le cas.
C'est quand c'est 2004, notre équipe, c'est juste avant alors.
Ouais. Un truc comme ça. Mais donc moi, c'était la question que je me posais parce que je me dis, je pense qu'il aurait vraiment cartonné. Mais je me suis même posé la question, en live action, il aurait cartonné aussi. Je pense que si ça avait été vraiment...
Alors...
Alors là, non, mais
à l'époque...
Il faut les moyens, je suis d'accord.
Ça
mais
date de quand, si Abyss ça...
Ouais,
non, c'est avant,
c'est
genre dans les années 90.
Abyss, t'as pas des décors aussi grandioses à...
Non. C'est vraiment dans la féerie de si l'éléphant en live action...
Alors par contre,
leur
donne pas des mauvaises idées parce que voilà... Ils vont finir par
c'est
le faire.
C'est vrai qu'ils nous écoutent et qu'on est vraiment précurseurs dans les idées.
Non, eux, ils nous écoutent pas. Leurs intelligences artificielles, oui, probablement.
D'accord, ouais. Mais non, du coup, c'était cette question parce que, en fait, vraiment, les personnages, ils sont très adultes. Il y a des trucs où, moi, il y a des blagues qui m'ont vraiment fait marrer. Mais des trucs où je suis sûr que les enfants, ils connectaient même pas, tu vois. Genre, je suis désolé, hein, mais la blague de la grand-mère qui fait désolé, je dors à poil. Genre, à quel moment ça fait marrer un gosse?
Moi, ça me faisait trop marrer. Avec mes frères, on était morts de rire.
Elle est somnambule ou...
Ouais, elle est somnambule et voilà, il lui file le masque et c'est super drôle, tu vois. Parce que t'as cette idée-là, tu évidemment que tu comprends pas vraiment ce que ça veut dire quand t'es petit, mais c'est drôle.
Mais on a tous vu notre grand-mère à poil.
Non, mais tu fais, c'est une vieille dame toute nue, c'est drôle, c'est rigolo, tu vois.
Ouais, ouais. Mais c'est pas, moi, comme je l'ai pas vu enfant, j'arrive pas à me projeter sur qu'est-ce que l'enfant pouvait comprendre dans sa psyché de ce truc-là. Et je comprends qu'il soit complètement déconnecté ou peut-être que ça fasse juste peur. Il y a des trucs qui font juste peur, en fait. Du coup, ouais, peut-être Don Bluth, peut-être chez la Fox. Je veux dire, ça aurait été un peu. Oui, mais c'est ça. C'est que l'équipe qu'ils avaient après, elle était vraiment incroyable. Et c'est dommage qu'ils étaient pieds et poings liés, je pense, parce que Disney a eu peur de prendre des risques. Il y a ça aussi.
Oui, oui.
Parce que, genre, Joss Whedon, quand il raconte comment ça s'est passé, il avait écrit tout autre chose. Et ce qui reste dans le film, c'est peut-être 10% de ce que lui, il avait écrit à la base.
Mais ça se sent un peu, je pense, hein, du coup.
Mais c'est ça. Et ça a été condensé. À la base, c'était beaucoup plus long. Ça devait être trois films, apparemment. Ça, je le savais pas. Du coup, il y avait tout un truc où peut-être, oui, et si les arcs, on avait donné le temps aux artistes et aux scénaristes de développer les arcs sur les films et dans le temps, ça aurait été quelque chose de beaucoup plus intéressant.
Mike Mignola aussi a été très surpris d'avoir été embarqué là-dedans, dans ce projet.
Et il
a débarqué, il a vu certains visuels et il s'est dit « Eh, mais j'aime bien ça !» Bah oui, c'est inspiré de tes dessins.
Bah ouais, j'imagine.
Après, c'est un film, c'est comme plein d'autres films. Il a eu un succès critique, mais après sa sortie.
Ouais, maintenant, il a un cult following, comme ils disent.
Ouais, il y a un cult following, mais il y a tous les sites maintenant qui existent, qui n'existaient pas forcément.
Ouais, qui le trouvent vraiment bien.
Il n'y a que des bonnes critiques, Rotten Tomatoes, Metacritic, Sens Critique.
Ce qui arrive souvent avec ce genre de...
Oui, c'est ça, des choses qui sont découvertes.
Mais en fait,
après,
est-ce que tout simplement.
C'est une identité vraiment très prononcée.
Mais est-ce que ça a été découvert après? Ou est-ce que ce ne sont pas les enfants de l'an 2000 qui l'ont regardé 20 ans plus tard et qui se disent oh putain
ouais, ouais,
en
non,
fait, avec 20 ans de vie, j'ai vraiment plus de recul.
Tu vois, comme je disais au début, je l'ai toujours énormément aimé. Et là, en le revoyant, je l'aime un poil moins. Parce qu'il y a plein de choses que j'adore dedans, mais je trouve qu'en effet, il va trop vite. Il y a plein de choses qui vont pas.
Mais après, oui, parce qu'il fait partie de ce système. Mais... Et qu'au final, en fait, on dit 100 millions pour l'époque. Même là, maintenant, là, c'est un bon budget pour un film d'animation.
100 millions, oui.
Mais en fait, c'était pas assez. Concrètement.
Clairement, pour leurs ambitions, non.
Pour les ambitions qu'ils avaient, pour ce qu'ils voulaient faire de ce film, c'était pas assez. Et je pense qu'au bout d'un moment, les exécutifs du studio ont dit on commence à être dans la merde, parce que 2001, je vous rappelle que Disney, ça allait pas fort.
C'est là comme au début de la traversée
du
désert.
Voilà, ils ont dû dire on arrête les frais, là, on ferme le robinet à dollars et vous sortez ce film, quoi. Vous avez, à mon avis, ils ont dû leur dire un truc comme à la Katzenberg, vous avez 6 mois pour finir. Et après, c'est à la maison, quoi.
À la maison, ouais, c'est ça.
Non, mais c'est vrai.
Sans assurance, let's go.
Ben, probablement.
Mais ouais, donc voilà, c'était un peu ma question parce que je me dis que peut-être ça aurait pu être quelque chose d'autre autre part. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'autres studios à l'époque non plus. Enfin, c'était DreamWorks qui commençait. Il y avait un Anastasia quelques années avant avec la Fox qui avait juste été un burst de la part de la Fox pour dire on peut faire de l'anime, ça a marché. Puis après, ils n'ont plus rien fait. Amblimation, c'était fini. Donc, oui, il n'y avait pas non plus un milliard d'autres places pour le faire. Mais c'est clair que je ne peux pas m'empêcher de poser cette question.
Mais après. L'univers à adapter des choses comme ça, ce genre de mythologie, ouais. Ça se fait. Hein,
ça aussi, vrai. Le folklore de l'Atlantide et puis truc sous l'océan comme ça.
Qu'est-ce qui a été fait là-dessus, autre que l'Atlantide ? Parce que c'est un film qu'on connaît, mais alors je sais qu'il y a un film. Il y a un vieux film de 1964.
Il y a les adaptations des Jules Verne.
C'est ça, qui sont, bon, en général, pas ouf. Oui. Enfin, ça dépend. Le 20 milieux sous les mers, l'époque,
ouais,
est quand même
cool,
très très cool.
Mais disons, tu vois, il y avait un vieux film sur l'Atlantide, c'est en 1964, mais je l'ai pas vu. Et j'ai un peu peur. Après, les films d'aventure de cette époque-là, c'était quand même cool. Les années 60, là, il y a vraiment des trucs. Moi, j'en ai revu plein là, il y a pas longtemps. Et c'est vraiment ouf. Hein. Tu passes vraiment des bons moments.
Ouais, ouais.
Je sais pas. Il faudrait regarder un peu, faire une recherche sur qu'est-ce qui a été fait depuis. J'imagine qu'il y a des jeux vidéo qui reprennent un peu. Après, il y a par exemple BioShock. C'est con, mais c'est un peu le mythe aussi de la cité sous-marine.
Mais après, tu vas avoir les Tomb Raider et autres.
Oui, bien sûr, tout ce qui est jeux d'aventure. J'imagine que Uncharted, je ne les ai pas fait, mais il doit y avoir des références à ça là-dedans. Voilà.
Ouais.
Donc oui, mais c'est un mythe qui n'est pas tant exploité que ça, finalement. Tu vois ?
Non, c'est vrai, mais après, il est un peu évoqué à gauche et à droite.
Oui, il y a des
épisodes de Futurama entièrement dessus, des épisodes de
détournés, etc.
D'ailleurs, dans Hellboy, c'est quelque chose qui revient. Il mélange tellement de mythologies différentes que c'est un tout cohérent.
Comment il s'appelle ? Mais c'est juste que c'est de la merde. Mais Fisherman, là.
Fisherman 42 Avenue Wally Sidney.
Aquaman.
Oh, tu m'as défoncé la tête. Aquaman, voilà. Je t'ai sorti une démo.
Ouais, j'ai vu.
avec Fisherman.
oui, voilà, c'est ça. Aquaman, il y a un délire avec l'Atlantide, non ?
Pas du tout.
Ah, c'est pas ça ?
Non, non, il y a un délire de la meuf avec Johnny Depp, ils font des trucs bizarres, il y a un procès, tout ça.
En fait, j'ai commencé le film, j'ai vu Jason Momoa qui prend de la vodka, qui enlève son t-shirt, qui plonge dans l'eau, j'ai fait « Bah d'accord, super ».
Moi, demi-molle, et après j'ai coupé.
C'est vrai que c'est un style très différent d'Atlantide que celui qu'on vient de voir.
Oui, non, mais oui, voilà. Il me semblait qu'il y avait tout un truc autour de l'Atlantide. Bon, bah tu vois, je me trompe.
Non, ils ont un palais sous l'eau avec un roi, un peu comme.
Ouais, donc ça rejoint.
Finalement, c'est la petite sirène, mais chez DC, en fait, un peu.
Oui, bah la petite sirène, voilà. Est-ce que c'est pas un peu le renouveau de l'Atlantide par DC?
Glenkin, il a vu ça, il a fait
je vais vous refaire ça un peu mieux avec des cheveux là. Ah d'ailleurs, voilà, les cheveux, l'animation des cheveux de Kida dans l'eau, pas possible.
Mais non, parce que attends, la petite sirène, c'était avant, je suis con.
Oui, mais ils avaient plus du coup. C'est pour ça que je me pose la question. C'est-à-dire...
Ah ouais, qui c'est qui on sait pas qui a animé en fait là-bas.
Est-ce que c'était avant là ? Oui, c'était avant. Oui,
la petite sirène, c'était au début, des années 90.
Oui, c'est ça. Mais oui, l'animation des cheveux de Kida dans l'eau, c'est pareil, c'est là où tu fais. Mais en fait, c'est des trucs qui ont été animés avec beaucoup moins de temps, beaucoup moins de budget en fait.
Ouais, clairement.
Et ben, on va pouvoir conclure. C'est déjà la fin. Est-ce que vous avez des recommandations ? Bah Robin, tiens.
Bah moi, tout simplement, je vais vous recommander parce que passez votre paddy. Alors, il y a différents types de plongée. Il y a la plongée avec le paddy qui est sans les bouteilles. Puis vous pouvez apprendre à plonger avec... Non, j'ai pas du tout ça. C'est en fait, comme je les ai regardés pour le podcast, c'est les documentaires, interviews, making-of du film. Parce qu'ils en ont chié. Et mélanger la 3D et la 2D, puis trouver des solutions et faire fonctionner ça dans les années 2000, ben c'était pas simple comme maintenant. Il n'y avait pas Blender, il n'y avait pas plein de solutions comme ça qui vous aident à aller beaucoup plus vite. Et ils ont dû être vachement créatifs. Et donc, ils sont tous sur YouTube. Hein. Allez voir les
making-of. J'ai dû les voir à l'époque sur DVD.
Ouais, c'est ça, tu sais, quand à la fin, et ils sont vraiment cool. Il y a plein de choses aussi où ils ont des problèmes, comme on en parlait quand ils ont découvert ce qu'ils ont dû développer, par exemple, pour Iron Giant, dont tu avais parlé, là, le motion blur pour les arbres et tout.
Ouais.
Ben, du coup, là, ils ont aussi dû développer des trucs. Et c'était en fait le moment où, ben voilà, comme on disait, c'est le début de la traversée du désert pour Disney. Et ils ne voulaient pas switch à la 3D entièrement. Ils n'étaient pas d'accord. Ils ne pensaient pas que ça allait marcher. Puis après, voilà, ils ont eu 10 ans de retard.
Là où DreamWorks l'a fait immédiatement.
Voilà, là où Pixar l'a fait.
Marché,
et puis après, ils ont rattrapé. Maintenant, c'est redevenu les leaders là-dedans.
Bien
mais voilà. Donc, moi, je vous conseille d'aller voir ça parce que c'est vraiment plein de savoir.
Ok, merci.
Et toi, avant, t'as une reco?
Oui, je vais vous recommander un film qui s'appelle Cassandro. Et qui est en fait l'histoire d'un exotico. Donc un exotico, qu'est-ce que c'est? C'est un lutteur mexicain, donc catcheur mexicain, qui là est homosexuel et qui est travesti. Et en fait, c'est une histoire vraie. Et donc, c'est un biopic, tu vois, sur ce catcheur-là qui est interprété par Gael García Bernal, qui est un acteur que j'adore, qui est mexicain. Et donc, ça se passe entre les États-Unis et le Mexique, à la frontière. Et en gros, c'est un peu comment il part d'être ce personnage qui est toujours un petit peu ridicule. Tu sais, tous les combats de catch, comment c'est un peu mis en scène. Et lui, il perd tout le temps. Et voilà, il est un peu le runt, donc le gringalet, tu vois, parce qu'il est vraiment pas costaud. Et en fait, comment il arrive à se créer un personnage et à dépasser un peu ça. Puis il y a toute une histoire avec sa relation avec sa mère, son père, le fait qu'il soit homosexuel. Il y a tout un truc comme ça et c'est un peu sa montée. C'est un film qui te fait te sentir très très bien à la fin, mais c'est beaucoup beaucoup d'émotions. Ça faisait longtemps que j'avais pas chialé comme ça devant un film, honnêtement. Je m'attendais pas du tout à ça en le regardant. Et c'est absolument sublime. La photo est géniale. C'est fait par un réalisateur de documentaire à la base, mais là c'est de la fiction. Et du coup, il y a un regard très très réel, tu sais, très posé sur les personnages et tout. C'est vraiment cool. Donc voilà, Cassandro, c'est sur Amazon Prime ou peu importe où vous le trouvez. Je vous le conseille fortement.
Merci beaucoup.
Alors, la prochaine fois, de quoi on vous parle? On vous parle de Marcel le coquillage avec ses chaussures.
Alors, j'ai une question là-dessus.
Oui.
Est-ce que ça ne serait pas plutôt intéressant, parce que la version québécoise, ils ne l'ont pas renommé comme ça.
Et ils l'ont renommé comment?
Marcel le coquillage chaussé.
Marcel le coquillage chaussé, ouais, j'aime bien.
C'est pas mal.
Marcel le coquillage chaussé. Donc on vous parlera la prochaine fois, on vous parlera de Marcel le coquillage chaussé. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas,
allez voir des films d'animation.